Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Les Tontons Farmeurs, une émission qui...
Les Tontons Farmeurs, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture. Une émission animée par Jean-Paul Hébrard de TV Agri.
Une émission pour vous, les agriculteurs.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Alors, une émission de TV Agri en partenariat avec l'association Co-Farming et notre partenaire, le groupe Agrica. Alors, qui sont les tontons farmeurs qui ont été sélectionnés cette semaine? Tout d'abord, notre empêcheur de cultiver en rond, celui qui met les pieds dans le plat de diversification, celui qui reste quand même avant tout un céréalier de la Marne, j'ai cité Jean-Baptiste Vervy. En forme, Jean-Baptiste?
Ouais, très en forme ce soir.
Ah, mais tu sais que le sujet qu'on va aborder est un sujet très très grave.
Oui.
Mais on a bien travaillé la semaine. Et le second tonton farmer, donc cette semaine, il s'énerve dès que l'on critique l'agriculture bretonne. Il s'agit de Kevin Richard, cofondateur de Ferme Direct. Kevin, tu nous entends bien?
Bonjour, oui, très bien.
T'es où en Bretagne d'ailleurs là?
Eh bien, je suis près de Dinan, dans les Côtes d'Armor.
Et il pleut?
Oui.
Le troisième tonton.
Je vais vérifier, mais je te dis oui.
Le troisième tonton farmer a passé son enfance dans une ferme du Lot-et-Garonne. Je prononce bien. Et si, comme le dit la chanson pour vous, cela ne veut pas dire beaucoup, vu l'origine de notre invité de la semaine, je comprends pourquoi Anaël Bibard, cofondateur de FarmLib, s'est inscrit cette semaine. Le Lot-et-Garonne, c'est le meilleur département de France.
Bien évidemment. Aucun doute là-dessus, Jean-Paul.
Et notre quatrième tonton est le fondateur d'AgriVillage, une plateforme qui va détrôner dans quelques semaines, écoutez bien, Airbnb, n'est-ce pas Adrien Gabillet?
Bien entendu, Jean-Paul.
Il n'y a aucun doute là-dessus.
Aucun doute.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Et j'en profite pour expliquer à Adrien qu'il faut pas parler pendant les jingles et que les jingles sont seuls normalement à l'antenne. Alors cette semaine, nous allons parler d'un sujet grave, le suicide des agriculteurs. Et c'est pour cela que nous avons invité Olivier Damaisin. Il est député La République En Marche du Lot-et-Garonne. Il a remis la semaine dernière un rapport sur le sujet au ministre de l'Agriculture, au Premier ministre notamment. Olivier Damaisin, on entrera après... plus dans le sujet. On a pas mal d'interviews, on a pas mal de points à voir avec vous. Mais déjà, pourquoi, en quelques phrases vraiment, pourquoi vous avez été choisi pour rédiger ce rapport, vous, Olivier Damaisin?
Déjà, bonsoir à tous. Hein. Donc, je suis très heureux de participer à cette émission pour la première fois. Et donc, pour répondre à votre question, j'ai été choisi parce que simplement, j'ai eu des échanges avec le président de la République sur cette dramatique situation et on ne pouvait pas laisser faire. En plus, à ce moment-là, il y a le film d'Edouard Bergeon qui est sorti, qui a brisé un tabou, qui a laissé la parole aux agriculteurs, qui ont osé dire des choses que jusqu'à présent ne disaient pas. Et ça a débouché sur une mission qui m'a été donnée par le Premier ministre Édouard Philippe à l'époque, et le ministre de l'Agriculture, et le ministre de la Santé également.
Alors, Olivier Damaisin, on va expliquer que grâce à Oui SNCF, on va faire une émission un peu 4x4, puisque vous êtes là actuellement entre deux wagons, dans un TGV entre Paris et Bordeaux, je suppose. Et on,
c'est ça.
Voilà, et on croise les doigts pour que le Wi-Fi du train fonctionne bien. Et puis surtout, ceux qui nous écoutent, soyez pas étonnés si on entend parler justement d'aller chercher au wagon-bar des boissons, etc. Vous êtes dans un train, c'est dit, et on est prêt à tout. Alors, c'est une émission qui est totalement interactive, c'est-à-dire qu'à tout moment, ben, les personnes qui nous écoutent peuvent nous appeler au 07 51 53 17 27. Elles peuvent réagir aussi sur Twitter via TTF, donc effectivement comme les tontons farmeurs, hashtag TTF. Voilà. Alors, ce qui est important à voir, tout d'abord, c'est comme chaque semaine, l'actu qui a le plus énervé dans la semaine. Et cette semaine, quelle est l'actu qui t'a énervé particulièrement, Anaël? Et je suis sûr, te connaissant, que c'est encore une histoire de pesticides.
Exactement, c'est l'étude Agrican. Alors vous savez, c'est cette étude de cohorte sur plus de 180 000 agriculteurs, donc l'étude la plus vaste au monde dans le cadre agricole. Donc cette étude, les commentateurs habituels pourront en dire « Oh Dieu, bien des choses hein, », en variant le ton, par exemple, prenons la dépêche, moins de cancer chez les agriculteurs, moins 7% chez les hommes, moins 5% chez les femmes par rapport à la population, mais un risque majoré de suicide de 7, plus 7 à plus 46%. Y voit-on des traces de pesticides ? Que nenni. Actu environnement, cohorte agricant, certains cancers sont plus fréquents chez les agriculteurs, lymphome, cancer de la prostate ou encore maladie de Parkinson. Descriptif, comme chez Réussir. Le soleil et les pesticides augmentent le risque de certains cancers par rapport au risque de la population. Moins de cancers du poumon, du larynx, de l'œsophage, de la vessie. Et si on se laisse s'emporter à la fake news comme Donald Trump, on pourrait même dire que en utilisant du glyphosate, vous avez plus 3% de risque d'avoir un cancer de la prostate, mais de moins 20 à moins 40% de risque pour 4 autres cancers. C'est carrément les soldes. Alors vous voyez, on peut dire au bien des choses de cette étude, mais surtout, plutôt que de servir des conclusions bien trop hâtives, comme ce qu'on est en train de lire sur chaque média ou chaque commentateur, il faudrait avoir un peu plus de densité, d'honnêteté et d'humilité que l'idéologie qu'on nous sert dans un monde dominé par des phrases ou des chiffres chocs pour vendre ou apeurer vis-à-vis de ces pesticides.
Bon, ben Anaëlle, effectivement, elle était bien remontée. Chacun peut voir midi à sa porte derrière chaque actu. Et effectivement, il faut prendre un peu de recul et puis être honnête dans le traitement de l'information. Ben, on va justement essayer de l'être. Mais juste avant, je vais quand même demander à Adrien Gabillet de nous présenter la belle idée de la semaine, puisque c'est ton site, Adrien, qui est la belle idée de la semaine, puisqu'elle ton site permet d'apporter un revenu complémentaire aux agriculteurs en mettant notamment, et pas seulement, des tiny houses, des maisons en bois minuscules, dans les fermes. Explique-moi, Adrien.
Tout à fait. En fait, j'ai fondé AgriVillage, qui est une plateforme dédiée à l'agritourisme. Pourquoi déjà développer AgriTourisme ? Parce qu'effectivement, ça permet de créer un revenu complémentaire, mais aussi de recréer le lien entre les agriculteurs et les consommateurs. En plus de notre plateforme de réservation en ligne que nous avons créée l'année dernière, on est en train de lancer un programme qui permet aux agriculteurs d'installer des hébergements insolites éco-responsables dans leur ferme, sans qu'ils aient besoin ni de porter le projet administrativement, ni le projet financièrement. Finalement, AgriVillage s'occupe de tout. Et on redistribue un pourcentage du revenu locatif aux agriculteurs. Donc voilà, on continue à rechercher des agriculteurs intéressés par ces projets-là et on lance des tiny houses un peu partout en France dès mars prochain.
Dis-moi si je comprends bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un agriculteur qui n'est pas forcément un pro du tourisme, mais qui est dans une belle région, qui a la possibilité de mettre un habitat à disposition, on va dire, bah vous occupez de tout, de trouver les clients et puis d'installer éventuellement la tiny house ?
Exactement. Exactement. On installe la tiny house chez l'agriculteur. On gère toute la partie gestion locative de la tiny house. Donc, on amène le client jusqu'à la tiny house et ensuite, on demande à l'agriculteur de tout de même faire une activité découverte de son métier durant le séjour du client et puis d'effectuer aussi le ménage après le séjour contre une rémunération de 45 euros par séjour.
D'accord, donc c'est fixé. L'agriculture, un monde impitoyable, point d'interrogation. C'est quoi ce titre, Jean-Baptiste ? Explique-nous.
Comme d'habitude, hein, Jean-Paul, on essaye de prendre des fois des sujets, de prendre les sujets un peu tabous, les sujets qui trouvent écho dans la plaine. Et là, en fait, on voulait traiter ce côté-là. Alors, l'agriculture, on idéalise beaucoup. Quand on est un peu loin, tout se passe bien. Ça peut être très collectif, de très belles histoires, de très beaux projets collectifs, tout ça. Et puis, on sait aussi, quand on est sur le terrain agriculteur, que des fois, c'est quand même pas toujours clean. Que parfois, on va avoir au-dessus de son épaule le poids du regard du voisin qui va regarder tes techniques culturales. Et parce que tu vas faire des techniques un peu différentes que les autres ou tu vas tenter des approches différentes, tu vas être fortement critiqué. On a tous connu un peu dans nos histoires, malheureusement, l'agriculteur qui lui arrive une petite mésaventure, un décès, que sais-je. Et puis, d'un seul coup, il y a des gens qui toquent à votre porte pour t'aider à faire tes champs. Il y a plein de petites histoires comme ça, même du côté des OPA, je sais pas si on les creusera ce soir,
On en parlera.
On se dit, c'est pas toujours très clean, c'est pas toujours vertueux, et ça peut même être pesant sur le, pour certains agriculteurs. Donc on s'est dit, les tontons farmeurs, on aborde le sujet. Et puis, comme d'habitude, on essaiera d'apporter une proposition.
Alors, on y va. Justement, on va parler tout d'abord du suicide, puisqu'Olivier Damaison est avec nous encore, je l'espère. On va partir d'un témoignage. C'est celui de Louis Ganet, que je remercie vraiment d'avoir témoigné ici à l'antenne. Il y a 5 ans à peu près, il a failli mettre un terme à ses jours. Et je vous propose de l'écouter. Louis Ganet, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous en êtes arrivé à penser à un jour vous suicider ?
Écoutez, c'est toute la spirale des difficultés liées à l'exploitation. Donc à l'époque, j'ai eu le malheur de perdre énormément d'animaux, de crises cardiaques. On ne sait pas trop d'où ça venait. Et puis une baisse de la production, la pression bancaire, forcément, des résultats économiques absolument catastrophiques, complètement dégradés, et la pression bancaire derrière qui fait que au bout d'un moment, on a cette phrase du président de la caisse locale de la banque qui vous dit, je suis gagné, il va falloir penser à vous liquider. Et puis, des difficultés personnelles, parce que forcément, quand on perd des animaux, quand ce fruit du travail vraiment s'amenuise, disparaît, ces difficultés, on a des difficultés personnelles. Au bout d'un moment, en fait, on est dans une spirale, une espèce de marée noire, une pensée de marée noire, en fait, qui psychologique qui nous étouffe complètement. Au bout d'un moment, qu'attendre de la suite, qu'attendre de l'avenir quand tout malheureusement reste négatif.
Jusqu'où êtes-vous allé et qu'est-ce qui vous a sauvé ?
Alors, j'avais mis une corde au bout d'une poutre et puis avec l'échelle et puis voilà. Enfin, le geste assez classique, d'après mes souvenirs. Ça date maintenant d'il y a un peu plus de 5 ans et demi, ça fera bientôt 6 ans. Donc le geste assez classique. Et puis quand je me suis retrouvé face à cette corde, à savoir peut-être un instinct de survie. Enfin, j'étais dans un état absolument second. J'ai ce souvenir-là de pleurer énormément, d'être complètement désespéré, au bout du désespoir. Vraiment, je ne voyais pas de choses positives qui pouvait me rattacher à la vie. Je suis resté là un moment. Je ne sais pas le temps, parce que le temps n'a pas d'importance, mais j'étais devant cette corde avec un nœud coulant, enfin quelque chose d'assez classique. Je suis resté là sur cette échelle et puis je suis descendu et je pleurais au pied de cette échelle. J'en voulais à tout, je ne comprenais pas ce qui se passait. L'agriculture, l'élevage laitier, c'était ma passion, c'était un projet de vie, n'étant pas d'origine agricole. Je travaillais comme un fou, il me semblait que je travaillais à peu près correctement. Mais après, j'ai rencontré des difficultés, les cours du lait qui s'effondraient aussi un peu. Plus de perspectives économiques, on fait quoi? J'avais tout investi, tout l'argent que j'avais mis un peu de côté dans les années précédentes. J'avais vraiment tout misé là-dessus. J'étais bien à la ferme, j'étais bien dans ce métier-là. Et puis, quelque part, c'était une vocation brisée, quoi. Et puis, je suis redescendu et je me suis retrouvé comme ça au pied de cette échelle. J'ai encore pleuré. Et puis, voilà, je suis en vie. Alors après, il y a eu un processus où j'ai pu un peu sortir la tête de l'eau. Et puis aujourd'hui, je revis, on va dire.
Olivier Damaison, comment vous réagissez ?
Oui, malheureusement, c'est des témoignages comme ça que j'ai depuis le mois de février que j'entends. Donc c'est très, très difficile à accepter parce que cet homme, il a mis beaucoup d'engagement. Il y a passé une passion et un investissement énorme, donc c'est très difficile, c'est certain. Mais j'ai eu témoignage d'un agriculteur qui s'est suicidé, qui s'est pendu, qui a été sauvé par des amis qui étaient là à ce moment-là. Il sait pas pourquoi. Et bien sûr qu'il était dans la difficulté, bien sûr qu'il était dans la détresse financière et autres, mais il sait pas pourquoi à ce moment-là il a passé l'acte. il savait pas comment l'expliquer des années après. Il s'est vraiment pendu et il a fait 3 semaines d'urgence. Il a été sauvé et même il est reparti dans l'agriculture et maintenant ça va bien pour lui, donc tant mieux. Mais il me disait, j'étais comme un robot, quoi. Je me vois encore prendre la corde, prendre le seau, monter dessus et me pendre, quoi. Mais il a pas d'explication non plus, comme ce monsieur, voyez. Et était lui, pas encore, il avait encore même passé l'acte. Heureusement qu'il y avait des amis chez lui qui l'ont sauvé. Donc j'ai eu des tas de témoignages comme ça. J'ai eu un témoignage, je me souviens, qui correspond un peu à ce monsieur. Cette personne avait reçu un recommandé et n'osait pas l'ouvrir. C'était un mercredi et heureusement parce qu'il y avait ses enfants. Sinon, il pense qu'il se serait suicidé ce jour-là. C'est un recommandé qui lui réclamait 7,50 €. Donc voilà, moi c'est le but de ma mission, c'est vraiment de remettre de l'humain et de l'humain dans tout ça.
Les tontons farmeurs. Qui prend la parole?
Ben, moi, il y a quelque chose, monsieur Damézin, qu'on entend dans votre témoignage, dans le témoignage de cet exploitant. Déjà, merci d'avoir travaillé sur ce sujet, mais il y a un truc, moi, qui me reste un peu en travers, après avoir lu le rapport, les prix et les cours du lait. Alors, en plus, c'est plusieurs fois des éleveurs, là, ils sont fait plus touchés, mais aussi à cause de l'aspect éco et de la charge de travail. Vous soulignez bien cette charge de travail, mais l'aspect éco, on en parle très, très, très peu dans ce rapport. Et pourtant...
Oui, mais c'est, si vous voulez, faut pas se tromper. C'est un peu un procès qui m'est fait, d'ailleurs dans l'Lot-et-Garonne, parce qu'il y a des côtés politiques qui se mettent là-dessus, c'est assez lamentable, mais bon, peu importe. C'est pas le but de... pas le but de ma mission. Voilà, ma mission, c'était pas savoir comment on va relancer l'économie agricole et comment on va faire que les agriculteurs gagnent mieux leur vie. Moi, c'était pas ça la mission. Parce que s'il fallait faire une mission pour ça, fallait pas attendre depuis 40 ans pour la faire. Et puis, fallait pas que moi, ma mission, en une journée, elle était réglée. Les gens se suicident parce qu'en priorité, c'est parce qu'ils ont des problèmes de revenus. Le but du jeu, c'était pas ça la mission. La mission, c'est comment faire pour aider quelqu'un qui est dans la difficulté pour l'aider. Pas pour trouver la solution à court terme, mais pour l'aider à ce qu'il passe pas à l'acte. C'est ça ma mission. C'est pas autre chose. Ouais. Donc, il faut pas se tromper de débat.
Votre mission, si je l'ai bien compris, c'est quand même constater et prévenir, essayer d'éviter et prévenir les suicides, et une deuxième objectif qui était d'évaluer l'impact de l'agribashing aussi. Dans les deux missions.
L'agribashing faisait partie des quatre, parce que moi j'ai soulevé quatre situations. Hein, le problème financier, qui est un énorme problème, hein, qui est largement le problème le plus important. Vous avez ensuite le problème des générations. On voit bien, vous savez tous qui est l'agriculteur, si vous avez en vous un grand-père qui a réussi, qui a exploité la ferme, qui a développé la ferme, et votre papa aussi qui a réussi à bien développer. Et vous arrivez derrière avec des difficultés énormes de marché, pas des difficultés vous de gestion. C'est le marché qui n'est plus là, c'est le marché qui fait des prix très bas, et vous avez une pression terrible de vos grands-parents et de vos frères et sœurs d'ailleurs, parce que ils disent qu'est-ce qu'il va faire de l'héritage familial. Alors ça, c'est aussi un gros problème. Vous avez après, ensuite, on en a parlé là à l'instant, c'est l'agribashing. Ça, c'est vraiment un gros souci, hein, qui surgit depuis 5-10 ans. Donc on le vit tous les jours, et ça suffit. Et moi, j'ai fait une tribune avec plus de 80 collègues parlementaires il y a une quinzaine de jours pour dire que maintenant ça suffit, il faut arrêter avec ces bêtises, l'agribashing. Et en plus, il y a un autre point, donc, qui est aussi le problème de l'isolement et de la solitude de certains agriculteurs qui, avant, bon, moi je vois bien, je vis à la campagne, j'habite dans un village de 145 habitants, j'ai la belle famille, j'ai mon frère qui est agriculteur, j'ai mon fils qui est dans l'agriculture, donc c'est quand même un milieu que je connais très bien, je suis pas arrivé là non plus par hasard, si vous voulez. Et donc, c'est avant, où il y avait 4 ou 5 fermes, maintenant des fois il y en a plus qu'une, et cet agriculteur, vous le savez tous, il est des fois, il voit personne de la journée. Donc s'il est vieux garçon, s'il est tout seul sur son exploitation, c'est quelqu'un qui peut avoir une très bonne exploitation, qui peut très bien gérer son troupeau, son cheptel ou ses cultures, mais par contre qui est dans un isolement complet et qui peut passer aussi à un acte, et lui ça sera pas un problème financier, par exemple, vous voyez. Donc c'est vraiment très 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 complexe, hein, cette mission.
Olivier, ce que j'entends bien, Olivier, ce que vous dites, c'est que effectivement certains syndicats peut-être remettraient trop le débat du prix au cœur, même si c'est une réalité. Et d'ailleurs, vous allez voir, au-delà du prix, il y a aussi l'intégration dans une chaîne aujourd'hui de production qui ne permet pas d'avoir des étoiles dans les yeux, c'est-à-dire de pouvoir espérer une meilleure valorisation, un meilleur revenu. Et on écoute Vincent Jourdillet. Il est éleveur tout d'abord et il est aussi expert foncier. Vous allez voir, il donne aussi cet aspect des choses.
Bonjour, Vincent Jourdillet. Je suis expert foncier et éleveur en Saône-et-Loire, en Charolais. Donc j'exploite une exploitation d'élevage de 160 vélages donc dans la filière maigre, je fais du broutard et j'engraisse mes semelles. Alors qu'est-ce qui peut aujourd'hui pousser, quels sont les facteurs qui peuvent pousser les agriculteurs au suicide ou avoir enfin des gestes graves? Moi je pense qu'avant tout c'est le facteur économique et financier. En effet, nous, enfin dans nos régions d'élevage, hein, le baromètre, c'est le baromètre du moral de l'éleveur, c'est le marché du broutard. Le broutard à l'Italie, dans nos régions, voilà, c'est un marché qui se fait autour de 400-420 kilos en maigre. Et je remarque lors de mes tournées dans les exploitations et sur mon exploitation aussi, que à partir du moment où le marché du broutard est bon, bah, tout le monde va bien, le moral est bon, ça discute. Et puis dès que le marché se casse la figure, comme c'est le cas en ce moment, eh ben tout de suite la situation est morose, les gens perdent le moral. C'est un problème de fond. Alors après, je dirais qu'il y a des éléments déclencheurs, hein, qui peuvent. Je dirais que ça c'est la trame de fond. Et puis après, il y a des éléments déclencheurs qui peuvent être, comme ces trois dernières années, les événements climatiques, la sécheresse. Voilà, un éleveur qui craint pour de ne plus pouvoir nourrir ses animaux. Ou à quel prix, hein, s'il a plus de stock et qu'il est obligé, il ne peut pas financièrement racheter des stocks. Ça, c'est pour moi, c'est réellement un élément déclencheur. Alors après, l'autre élément déclencheur pour un éleveur, hein, c'est les problèmes sanitaires dans l'élevage. Et on sait que à partir du moment où on tire un petit peu sur la corde, hein, sur le sanitaire, que ce soit en traitement, antiparasitaire, vaccination, derrière, eh ben, on a des risques de cascade, hein, de problèmes sanitaires et d'épidémies. Et ça, réellement, c'est aussi pour moi un élément déclencheur. Du geste grave, voilà. Alors après, en deuxième facteur, je dirais structurel, qui peut faire perdre le moral à un éleveur, c'est la perte de motivation. La perte de motivation, je l'entends tout simplement parce que je parle pour les éleveurs, ils sont coincés dans un schéma. Alors par exemple, moi, pour mon schéma dans ma région, c'est le schéma du maigre, et on a peu ou pas de possibilité d'évolution. En effet, tout est calé par les exportateurs, par les coopératives, les négociants, et tous les éleveurs qui font du broutard charolais ne peuvent pas ou vendre des reproducteurs ou engraisser tout leur broutard pour faire des gibets parce que ils n'ont pas la nourriture. Donc ça peut, pour moi, ça génère une perte de motivation puisqu'on dit voilà, on est coincé dans un système et de toute façon on n'a plus qu'à subir le système, et quand on n'a pas de perspective d'avenir ou de projets nouveaux dans une entreprise ou dans une situation, et ben forcément ça peut générer une perte de morale et puis donc conduire à un geste grave.
Coincé dans un système, c'est aussi ça le problème?
C'est forcément ça le problème, Jean-Paul. On le voit beaucoup dans les systèmes laitiers, et c'est pas pour rien qu'on parle de l'élevage. On est dans des gens qui travaillent énormément. Quand on est en contact des animaux comme ça, c'est des journées, c'est des nuits entières à passer. Et quand on cumule ça avec tout un tas de facteurs, parce que c'est jamais un seul facteur qui déclenche la perte de pied de l'éleveur. Il y a toujours beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et la solitude, la charge de travail, et évidemment les éléments qui font qu'on a l'impression qu'on va pas pouvoir sortir du système dans lequel on est.
Olivier Damaisin, vous partagez? Il faut redonner un peu de la liberté économique aux acteurs?
Ah ben c'est certain. Quand vous savez que les agriculteurs sont le seul métier au niveau de l'Europe qui a l'autorisation de vendre à perte, c'est qu'il y a déjà un problème. Déjà ça, c'est assez hallucinant. Pourquoi les agriculteurs ont droit de vendre à perte? C'est une question qu'il faudrait se poser. Et c'est qu'il faut se poser. Ce qu'on lit mon rapport, vous avez bien vu la lettre du Premier ministre. C'est pas, moi je suis pas là pour parler de l'économie et de l'agriculteur. Bien sûr que ça en fait partie. Mais c'était pas moi qui devais proposer des solutions à la fin de mon rapport. C'est vraiment l'urgence de trouver des solutions pour que, qu'on n'ait plus ces chiffres hallucinants de plus d'un mort par jour.
Après, on a une notion de pression. Alors, Jean-Baptiste, peut-être tu peux en parler, de pression morale.
Ouais. Ben, en fait, bon, c'est toujours un peu compliqué, hein, les sujets qu'on est en train d'évoquer. C'est pas évident, mais je l'ai évoqué tout à l'heure en présentant un petit peu le sujet. Là, dès qu'on va faire différemment ou dès qu'on va être un peu à l'écart des autres, alors ça peut être parce que on se met à l'écart parce qu'on trouve plus de sortie. Donc, dans les cas des gens qu'on vient de présenter, qui finissent peut-être par se suicider, mais aussi quand on fait d'autres pratiques. Il y a deux choses. Il y a une pression morale et une pression psychologique en fait qui peut y avoir quelque part le regard des autres, le poids de ses collègues qui te regardent ou de l'écosystème si tu travailles différemment. Si ça va pas bien, eh ben il y a des mecs qui vont t'aider, puis il y a des mecs qui vont te regarder, et dire, t'as vu, ça va pas bien. Ouais, ça va pas bien. Puis il y en a, ça va pas bien. Puis je vais attendre que ça aille mal aussi. On va continuer à attendre que ça aille mal, on sait jamais si je peux être là à côté et ramasser. Et je pense que la difficulté, c'est la capacité de chaque personne aussi de gérer ce regard des autres, qui est aussi le regard de la société, hein, qu'on se prend en pleine face. Moi, en tant qu'agriculteur, ça m'est arrivé en fait d'être dans les champs et d'avoir, j'étais en train de dépendre de l'engrais azoté, donc des petites bouilles, enfin des petites billes d'ammonitrate. Une voisine qui passe se masque le visage. Il n'y a pas de contamination dans ça. Bon, moi ça m'a marqué. Je suis passé à autre chose et voilà. Mais il peut y avoir des gens qui peuvent sur cet événement ou d'autres le porter, le subir. Et c'est un peu sur ses épaules, quoi. Et ça, je pense que ça se rajoute. Et c'est là où la profession, des fois, je veux dire, elle pourrait un peu regarder aussi dans son écosystème, dans son pré, pour se dire, bon, comment je fais pour peut-être être moins dans le regard, dans la critique, mais plutôt que je sois dans le constructif. Et un des sujets qui a été évoqué, moi, j'aimais bien, c'est reparler de sens, c'est reparler d'objectifs, c'est repartir de fierté, et c'est de se dire que même si ça va mal dans un secteur, bah bougeons-nous pour essayer de trouver une solution.
Et Jean-Baptiste,
on
justement...
On va pas baisser les bras en disant c'est le marché. Non, on va trouver une solution. Et les OPA doivent aussi y aller.
Jean-Baptiste, on va écouter Louis Ganet à nouveau. Il va nous dire comment lui, qui a été tout proche du suicide, hein, comment il a perçu qui l'a vraiment aidé ou est-ce qu'il a jugé que le monde agricole était impitoyable. On va l'écouter si vous êtes d'accord.
Alors, le problème de la MSA, énormément. Alors, pression morale de la part des voisins, c'est tout à fait ça. Moi, après, il y a aussi la pression morale familiale. Et moi, cette pression morale-là, je ne l'avais pas. Je suis pas fils d'agriculteur. Je pense que les enfants, les fils et filles d'agriculteurs ont quelque part, malheureusement, en plus cette pression-là. C'est-à-dire l'obligation de réussir. Après tout, l'affaire méritée du père, du grand-père, voire de plusieurs générations précédentes, c'est que ils ont impérativement cette obligation de réussite. Et quand un agriculteur jette l'éponge, alors soit arrête l'agriculture, c'est un quelque part il est banni d'une certaine société. Et moi ça je l'ai connu finalement avec les voisins. Le quand on réussit, vous êtes jalousé et envié, je crois pas, mais surtout extrêmement jalousé. Et puis quand ça va pas, par contre, vous êtes un peu dans la campagne comme un espèce de pestiféré finalement. Je l'ai vu lorsque j'ai vécu la liquidation de l'exploitation, où j'avais des petites choses qui se vendent pas aux enchères. Hein, vous avez des micro stocks d'aliments, des choses neuves. Et puis c'est des choses que je proposais. Je dis je te les donne tout ça. Mais non, en fait, ça venait d'une ferme qui allait être liquidée. Et donc, quelque part, on amenait le malheur sur son exploitation. Moi, c'est un agriculteur qui m'a dit ça, c'est un voisin qui m'a dit ça. Donc, le regard des autres a été épouvantable, notamment aussi quand j'ai été liquidé. J'ai beaucoup de voisins qui sont venus à l'époque me voir pour les terres. Alors, les terres, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, voilà, moi, bon, en l'occurrence, je louais toutes mes terres, c'était tous des beaux ruraux. Donc, voilà, le devenir des terres ne m'intéressait pas, puis j'avais plus la tête à ça. J'avais la tête à me reconstruire. Mais après, j'étais un petit peu déçu, honnêtement. À l'époque, j'étais adhérent à un grand syndicat. J'étais extrêmement déçu du manque de solidarité de tous les organismes agricoles. Et là-dessus, finalement, qui a été avec moi dans ces moments de liquidation? Il y a eu le vétérinaire qui était là. Il y a eu ce marchand de bestiaux qui depuis est à la retraite et qui était un homme absolument formidable, humainement très 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 beau, très fort, très, parce que c'est lui qui a embarqué mes vaches donc du coup pour leur dernier séjour, on va dire. Et mais voilà, c'était tout. On comptait vraiment les personnes à ce moment-là sous les doigts d'une main, et ça c'est extrêmement regrettable. Pourtant, voilà, encore une fois, c'est pas les organismes qui manquent, autour de l'agriculteur à ce moment-là.
La concurrence sur les terres, le regard des autres, effectivement, on sent que ça pèse. Olivier Damaisin, vous avez fait un certain nombre de recommandations. Bon, s'il fallait en citer une, ce serait laquelle que vous mettriez en avant ?
Ben là, tout à fait pour répondre à ça. Si vous voulez, il a dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, déjà, vous avez entendu le problème des générations. Ça, c'est un gros problème. Et par rapport à ce qu'il a dit, qu'on se retrouve seul et qu'on ne sait pas, on n'a pas d'aide, quoi. Hein, on se retrouve justement dans une situation qu'on ne sait pas gérer. Et puis, il a parlé des voisins, mais les voisins aussi, ils osent pas aussi. Des fois, ils osent pas venir parce que, ou s'ils viennent, ils sont maladroits. Donc, il faut mettre en place dans chaque département une cellule qui existe déjà dans un certain nombre de départements, mais qui n'est pas structurée, qui n'y a pas de lien. Et il faut qu'il y ait un référent départemental qui gère cette situation. Il faut que le maire de la commune où était ce monsieur, certainement qu'il a vu sa détresse, certainement qu'il a vu ses difficultés, le vétérinaire l'a vu, le technicien l'a vu. Et ces gens-là, ils ne savent pas vers qui se tourner. Parce qu'avec tous les systèmes qui existent actuellement, qui sont des bons systèmes, les associations, différentes associations qui existent sur tout le territoire, le problème, il faut que ce soit l'agriculteur qui appelle. Et des fois, l'agriculteur, il a la tête dans le guidon, il a fond dans le travail, et il y croit jusqu'au bout. Donc, il veut pas téléphoner, ou alors il a peur, ou il a pas envie, ou il a honte de téléphoner. Ouais, alors que si vous avez quelqu'un au niveau du département qui est là, lui, pour l'aider, et qui va venir vers lui, d'une manière professionnelle, qui va venir justement pour l'aider, qui va pas arriver à ce coup pour dire bon comment on va, où tu en es, qu'est-ce qu'on fait. Il y a toute une pédagogie derrière. Mais si on est, parce que là quand on attend que ce soit l'agriculteur qui appelle, des fois c'est trop tard.
Mais oui, et puis il a pas envie d'appeler l'agriculteur, parce que si c'est pour appeler pour que tous ses voisins soient au courant, et c'est le problème que souligne Olivier Ganet avec la MSA, vous allez voir.
Alors le problème de la MSA. Pour moi, parce que je l'ai rencontré après mon acte, on va dire, de désespoir. Le problème de la MSA, c'est qu'on a du mal à leur faire confiance. La MSA, malgré tout, dans le système agricole, certes, c'est l'organisme qui assure la protection sociale, mais c'est aussi un organisme qui prélève des cotisations. Et ce double rôle fait qu'aujourd'hui, ben non, on n'est pas enclin à aller parler à la MSA. Moi, qu'est-ce qu'on m'a proposé après ça? On m'a proposé globalement d'aller dans un hôpital psychiatrique. Mais j'étais pas fou. J'avais juste besoin que les choses aillent bien. J'avais juste besoin quelque part que de prendre une quinzaine de jours de vacances, parce que j'ai pas pris de vacances auparavant pendant de longues années. J'étais seul sur mon exploitation, donc H24, tout le temps, tous les jours, tous les mois, toute l'année. J'avais juste besoin de vacances et que quelqu'un quelque part me remplace sur l'exploitation et que ça aille bien juste et que quand je revienne ben voilà la situation ne soit pas dégradée. J'avais pas besoin d'aller à l'hôpital psychiatrique. J'avais besoin juste de repos, un peu de paix. Et ça, la MSA, en fait, la réponse c'est une fausse réponse. Et le problème, c'est un peu le problème de la MSA. On a du mal à leur faire confiance. Alors quelque chose d'anonyme, oui, mais après, moi je pense qu'il y a quelque chose à créer, parce que c'est pas les éléments d'alerte d'une exploitation en difficulté, ils sont très très nombreux. Moi je pense notamment aux centres de comptabilité. Les centres de comptabilité voient les situations se dégrader. Qu'est-ce qui est mis en place à ce niveau-là? Ben, en général, rien. Et pour moi, il faudrait créer quelque chose alors, ça se fait d'une manière générale. On va y avoir des conseils, mais ça reste toujours des conseils techniques, comptables. Et parfois, un agriculteur qui se retrouve dans cette situation-là, quelque part, a juste besoin d'un peu de paix, d'une petite période pour se reconstruire. Parce que moi, c'est une épreuve, ça, qui m'a détruit, complètement détruit. Et 5 ans après, bah, toujours un peu dans la reconstruction quand même, parce que ça laisse des traces. C'est pas si simple que ça. Alors oui, quelque chose d'anonyme, quelque chose, mais qui soit pas, où il n'y ait pas d'enjeu, pas d'enjeu de la profession, où il n'y ait pas d'intérêt de la profession. Pas forcément de syndicats agricoles dedans, pas de gens qui soient prêts quelque part à se intéresser par l'exploitation finalement. Quelque chose vraiment d'anonyme, un système avec des psychologues, des espaces d'échange anonymes ou alors de groupes. Parce que moi finalement, il y a quelques années, j'ai commencé à en parler, au moment de la liquidation. Et là, c'était très intéressant parce que on s'est retrouvé avec dans des groupes d'échanges, de paroles avec d'autres agriculteurs et agricultrices qui avaient vécu la même chose. Et en fait, ça fait énormément de bien. Et c'est ça qu'il faut, je pense.
Olivier Damaisin, donc on le voit, les fameux airs repos dont vous avez parlé dans le rapport, mais on voit aussi le problème des structures professionnelles qui existent. Et Jean-Baptiste, il voudrait vous faire une proposition parce qu'il a bossé cette semaine et il aurait un projet à vous proposer. Allez, vas-y Jean-Baptiste.
Ouais, j'y vais. Juste avant d'y aller, je reprécise quand même que même si c'est pas le sujet de monsieur le député, ce serait bien de faire comme la médecine préventive, c'est-à-dire faire tout en sorte pour qu'on connaisse le moins possible de situation. Parce que quand la situation va mal, il faut aussi regarder du côté de la police, c'est là aussi où on voit le plus de suicides. Quand ça va bien, c'est là où on en a moins. Donc il faut quand même vachement travailler ça. Mais si ça va mal, et on a bien entendu le témoignage qui était tout à l'heure, nous ce qu'on propose, justement, pour donner du sens, pour créer du lien, pour que l'agriculteur se sente entouré, pas qu'avec le monde agricole, parce que voilà, pour différentes raisons, pour aussi accrocher les consommateurs face à ces agriculteurs et prendre des outils que tout le monde a, et nous, on a regardé et ce qu'on propose, c'est d'utiliser bien-être en ligne pour les agris. Pour les agris, ça n'existe pas, mais bien-être en ligne, c'est une initiative de Facebook. Désolé, un Américain, un GAFA, c'est pas terrible. Mais quand même, ils travaillent depuis 10 ans sur le sujet des suicides. Alors, ils sont partis sur les enfants, voilà, qui sont harcelés et tout ça. Ils ont mis aujourd'hui des groupes en place pour lesquels ils peuvent détecter, en fait, ils peuvent mettre de l'anonymat. Ils peuvent détecter au travers des mots qui sont mis sur les textes des tentatives suicidaires. Ils peuvent mettre un peu d'alerte, on va dire, avec un peu de technique. Et puis, surtout derrière, en fait, des spécialistes. Et là, on pourrait imaginer, derrière ces spécialistes, qu'on ait effectivement tout le personnel qui va bien pour écouter, mais qui soit pas forcément du monde agricole, et peut-être pas du monde agricole, justement, pour sortir de sa bulle. Et ce système-là, nous, on se dit que ça donnerait beaucoup de sens, puis ça aiderait à le payer, ça aiderait beaucoup de sens si, par exemple, les consommateurs pouvaient contribuer. Par exemple, il existe plein de dispositifs comme ça, quand vous achetez en ligne, quand vous achetez dans une grande surface, des dispositifs, vous savez, les derniers centimes qu'on peut attribuer à une association. Et ben, pourquoi pas au monde agricole? Et quelque part, créer ce connecteur, alors qui pourrait être anodin, mais moi je me dis aussi du côté de l'agriculteur, se dire, oui, j'ai une place dans la société. Moi, en tant qu'agriculteur, producteur d'alimentation, c'est pas rien l'alimentation, j'ai une place dans la société et on m'écoute. Donc voilà, sur un dispositif, bon, il faudrait creuser avec Facebook, alors peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais sortir de l'écosystème pour agricole, même s'il y a des choses qui sont bien faites, on va pas cracher dessus, mais avec des outils que tout le monde a dans la poche, et puis une communauté plus grande, et essayer de créer du lien avec notre société pour redonner du sens au métier de l'agriculteur et qu'il ait l'impression d'être soutenu pour son alimentation.
Olivier Damaisin, vous la gardez ou vous la jetez l'idée, Jean-Baptiste ?
Non, il faut jamais jeter des idées, ça c'est certain, mais il faut creuser plus que ça. Puis en plus, je m'excuse, j'ai eu plein de micro-coupures, donc c'est un peu compliqué, mais je pense que j'ai bien compris le sens de cette idée qui est loin d'être stupide, que j'avais proposé moi d'ailleurs pendant la crise, il y a pas plus de 2 mois, au secrétaire d'État Grisé par rapport aux artisans et commerçants qui étaient donc fermés. Donc qu'on puisse, dans les grandes surfaces, leur donner une petite partie, donc on avait essayé de l'idée se rejoindre, donc surtout pas la critiquer. Par contre, au niveau des agriculteurs, là, ce que je proposais, c'était aussi le répit, de vraiment de le mettre en place au niveau de la MSA et qu'on aide bien ce système. Le seul problème que l'on a, c'est qu'on a actuellement pas assez de salariés pour pouvoir remplacer les agriculteurs. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais il est évident, vous l'avez tous bien entendu, que il avait simplement besoin de vacances plus qu'autre chose. Et donc quand je le dis, il y a des gens qui sourient, qui disent qu'ils connaissent pas le monde de l'agriculture. Mais quand vous avez quelqu'un qui travaille 14 heures par jour et qui touche 500 euros à la fin du mois, je peux vous dire qu'il a quand même vraiment besoin de vacances, parce qu'il faudrait vraiment avoir une volonté de faire pour faire ce métier pour 500 euros par mois, quoi.
Olivier Damaisin, vous êtes d'accord, une critique constructive, c'est toujours bon à prendre. Et justement, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi votre rapport a été critiqué, mais j'ai demandé une lecture à Antoine Jandet, il est co-auteur avec Camille Borin, donc d'un livre émouvant sur le suicide des agriculteurs, Tu m'as laissé en vie, en 2019, donc aux éditions du Cherche Midi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte quelques critiques, à mon avis, qu'il faut prendre en compte. On l'écoute.
Bonjour Jean-Paul, bonjour les tontons. Alors moi j'ai été très déçu par le rapport d'Olivier Damaisin sur la prévention du suicide agricole, parce que je trouve que ce rapport est très éloigné des préoccupations des paysans en détresse. Il est passé à côté de la dimension humaine du sujet et à mon avis, c'est quand même une dimension extrêmement importante. Il évoque ainsi des candidats éventuels au suicide comme des personnes, je cite, à la santé mentale fragile. Hein, les mots santé mentale sont répétés une bonne dizaine de fois dans le rapport. Sans que jamais cette fragilité ne soit recherchée. La philosophie du rapport est donc de soigner des malades, pas d'éviter aux agriculteurs de contracter cette maladie. Moi, je trouve ça quand même assez gênant. Par ailleurs, ce rapport reprend aveuglément les actions de différents organismes sans en vérifier le bon fonctionnement. On pourrait citer plusieurs exemples. Je vous donne l'exemple du service de la MSA, Xécoute, qui se dit ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Malheureusement, moi, j'ai eu beaucoup de retours me disant que ce n'était pas vrai. Mais au niveau du rapport, ça n'a pas été vérifié et on donne cette information-là comme étant fiable. Et pour être très, très simple et très rapide, il manque la dimension humaine au sujet. À aucun moment, il ne demandait aux acteurs du monde agricole en contact avec les agriculteurs en détresse de montrer davantage d'humanisme dans les rapports humains. Et c'est quand même dommage parce que des rapports parlementaires venant de l'Assemblée sur le sujet, ça fait très longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Je ne sais même pas si c'est pas le premier.
Solidarité Paysanne aussi a fait un communiqué un peu critique. Olivier Damaisin, ça veut dire qu'il faut aller plus loin? Comment vous réagissez?
Oui, mais il faut toujours, c'est évident qu'il faut toujours aller plus loin. Mais bon, je me demande s'il a vraiment lu mon rapport, parce que quand je vois les critiques qu'il fait, je comprends pas trop là. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Les rapports, il faut toujours les critiques, il faut toujours les accepter. Donc je les accepte et puis j'aimerais bien échanger avec lui. Ça peut être très sympathique d'avoir un échange, parce que je pense que le monsieur qu'on a entendu tout à l'heure dans le témoignage, il disait bien qu'il était pas fou, mais par contre il disait bien que 5 ans après, il était encore fragile. Donc je pense pas que je dis une bêtise quand c'est un problème de santé mentale. C'est un problème de santé mentale. C'est pas des problèmes mentaux. C'est des problèmes de santé, mentaux. Donc, je pense pas que je dis une bêtise en disant ça. Mais bon, moi, je pense que, au contraire, il y a de l'humain dans mon rapport, et j'insiste beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que je ne veux pas faire une PPL sur ce sujet, alors que n'importe quel député, n'importe quel parlementaire, quand il a une mission, ce qu'il rêve, c'est de faire une PPL, un projet de loi. Et moi, ce que je ne veux pas faire ça. Ce que je veux, c'est de suite qu'on prenne des mesures, comme on a fait quand j'ai remis le rapport avec Julien de Normandie. Mercredi dernier, parce que la première chose qu'on a dit, c'est qu'il faut aller très très vite et prendre des maximums de mesures pour pouvoir sauver des vies le plus vite possible.
Alors, il y a pas mal de réactions.
Sur les aspects, mesures, vous avez justement cité un groupe que je connais bien pour avoir accompagné beaucoup d'agriculteurs en Isère, le Sillon Dauphinois. Je pense qu'il y a quand même quelques initiatives que vous avez présentées dans votre rapport qui, même si elles méritent des améliorations, comme vous l'avez souligné sur la coordination des Sillons Dauphinois, notamment avec les centres de gestion ou d'autres choses, mais vraiment, pour avoir pu l'expérimenter, c'est des groupes d'accompagnateurs qui apportent des réels plus aux agriculteurs qui sont en phase de difficultés éco ou en phase de difficultés humaines. Ou moi, j'ai vu des agriculteurs accompagnés par le Sillon Dauphinois, leur taureau avait tué 2 personnes la même semaine.
Ah oui.
2 gars qui sont rentrés dans le parc et alors qu'il y avait écrit attention taureau machin, taureau à la reproduction, ils voulaient aller chercher des châtaignes, bim, un premier, les gendarmes, on vérifie tout, on remet 2-3 panneaux, on prépare le taureau pour aller le tuer, bim, la même semaine il y en a un deuxième qui rentre et les gars, le Sillon Dauphinois les a très très bien accompagnés. On avait fait un très bon boulot. Et je pense que vous avez montré des illustrations qui peuvent fonctionner comme ce sillon.
Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut que ce soit l'agriculteur qui fasse la démarche. Et quand il fait la démarche, il y a des structures, il y a des bénévoles, il y a tout ce qu'il faut. Ça existe. Mais quand c'est pas le cas, quand l'agriculteur, ben, il est pas prêt dans sa tête à faire la démarche, c'est là où il faut qu'il y ait des structures sur place avec un référent départemental lequel c'est son métier pour venir aider l'agriculteur dans cette situation-là.
Alors, on avait beaucoup de témoignages dans cette émission et notamment Rémi Dumery qui dit oui, le système agridif a des critères trop tardifs pour le repérage de fermes en difficulté économique. Rémi M dit quand les moments sont difficiles, tu comptes toujours sur les doigts d'une seule main, donc tes amis, mais les rapaces demain ne suffisent pas. Donc là, on retrouve aussi la pression en fait des voisins qui est très particulière au monde agricole. Vous savez, il est 19h40.
Là-dessus, Oui. Là, Jean-Paul, là-dessus, est-ce que, par rapport à ce qu'a dit Rémi aussi, enfin, il y a deux Rémi.
Donc, oui, il y a deux Rémi. Dumery et M.
Voilà. Il y a aussi un truc dans le monde agricole qui est quand même assez particulier, qui n'existe pas dans les autres corporations. C'est quand ça va mal dans les autres corporations, ça dure pas très longtemps. Nous, quand ça va mal, ça continue, en fait. Il y a une capacité de résilience déjà des exploitations, mais autour de toi, ça va mal, mais en fait, ta coop ou ton négoce, il va te aider pour réensemencer. Une année, deux années, puis un jour, tu te réveilles, tu as 400 000 euros de dette, donc t'es pieds et poings liés, en fait, avec ton fournisseur qui t'a aidé au départ d'une certaine volonté, mais à un moment donné, tu te dis, mais ça va pas, quoi. Parce que pendant qu'on l'aide, on prend pas le temps, dans une phase où le gars, il est peut-être encore à l'écoute, de se reposer la question du modèle. Parce que, ok, des fois, il y a le marché qui va pas, mais on est chef d'entreprise, donc il faut aussi se reposer la question du modèle de temps en temps. Par contre, quand on est bien la tête sous l'eau, avec un tas de factures, on s'engueule avec sa femme parce que ça déconne et machin, là, effectivement, on n'est plus prêt à écouter et c'est vachement dur. Moi aussi, j'ai accompagné des exploitants comme ça. Ils n'ont pas la tête ouverte à amener des évolutions pour faire progresser parce qu'on est arrivé bien, bien tard alors que il y avait déjà des signaux plus hauts et c'est un peu le courage aussi de dire bon, il faut qu'on remette les choses sur la table.
Bon allez, on arrive.
Et pour savoir si les mesures que vous prenez fonctionnent ou ne fonctionnent pas et améliorer ou non toutes les mesures, on se base quand même sur un chiffre qui date de 2015, qu'il y a quasiment, il y a plus d'un agriculteur qui se suicide tous les jours. Est-ce que ce serait pas intéressant de faire ce décompte chaque année pour voir si les mesures que vous prenez fonctionnent ou si elles ne sont pas suffisantes, en mettre davantage.
Je le dis effectivement dans mon rapport que d'ailleurs j'ai laissé tomber ces chiffres très très vite parce que je me suis dit ils sont obsolètes depuis 5 ans. Est-ce qu'on a plus de décès? Est-ce qu'on en a moins? On n'a aucune certitude dans les deux sens. Espérons qu'on en ait moins, mais on n'en a aucune certitude. Donc moi j'ai pas voulu partir sur ces bases de chiffres-là. Ils existent, ils ont mérité d'exister parce qu'il a de 2015. Mais c'est hallucinant que dans un pays comme la France, on n'ait pas d'autres chiffres depuis 2015.
Les tontons, arrêtez de poser des questions. Il est 19h45, on est arrivé au terme de cette émission. Olivier Damaisin est peut-être arrivé à Bordeaux d'ailleurs, j'entends plus le train derrière.
Oui, je suis à la gare.
Bon, comme quoi, on est quand même arrivé à faire cette émission malgré SNCF. Très concrètement, je vous remercie, monsieur le député tout d'abord. N'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin sur l'idée proposée par Jean-Baptiste, il suffit juste de caler.
N'hésitez pas à transmettre mes coordonnées à tous les invités, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger. Justement aussi au monsieur qui était très critique, j'aimerais bien avoir un échange avec lui, constructif bien sûr. Mais parce que c'est dommage qu'il reste sur cette position par rapport à mon rapport, parce que je pense qu'au contraire, je l'ai fait avec le plus d'humain possible.
Je transmettrai vos coordonnées, faites-moi confiance. Et puis, je tenais à remercier, bien sûr, avant que le train reparte pour Agen, le groupe Agrica et un nouveau partenaire média qui nous suit. Il s'agit de WikiAgri, je les remercie aussi. Et puis, ainsi que l'association CoFarming, qui est notre partenaire ici au Tonton Farmer. Merci à vous tous. Je lance le générique.
Merci bien.
Allez, bonne soirée.
Et on se retrouve mercredi prochain à 19h, bien sûr, pour un sujet tout aussi décapant, bien entendu.